Vous le savez, ma vie d'entrepreneuse est extrêmement prenante. En revanche, une chose passe avant tout, c'est l'éducation et l'alimentation de mon fils. On fait très attention à notre alimentation et on essaie de plus en plus de réduire le sucre dans nos vies et dans la vie de Léo. Un sujet très important pour nous, sachant qu'en plus, un documentaire sur Arte nommé « Sucre, le doux mensonge » énonçait qu'en France, un enfant de 8 ans a déjà mangé plus de sucre que ses grands-parents pendant toute leur vie. Donc jamais de goûter trop sucré et lui faire manger 5 fruits et légumes par jour. Avoir une alimentation équilibrée et fruitée, c'est clairement le meilleur des carburants pour vous les filles, mais aussi pour vos enfants. Je glisse souvent une gourde pompote dans mon sac, sans sucre ajouté bien sûr, avant d'aller le chercher à l'école, parce qu'en plus de plaire à Léo, ça équivaut à une portion de fruits recommandée par le Programme National Nutrition Santé. Pour moi, c'est pratique, et pour lui, c'est délicieux et ludique. Et maintenant, place à l'épisode. Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, hello! Donc, me voici pour la deuxième fois derrière mon propre micro. Sauf que cette fois-ci, c'est vraiment en mode monologue puisque personne ne m'interviewe. Donc, c'est pas un exercice facile, mais c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Donc, la première fois, c'était mon amie Nina qui avait fait l'interview et qui avait mené ça d'une main de maître. Et cette fois, pour la première fois, je prends la parole toute seule face à ma petite caméra et avec mon cher et tendre micro. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente de me prêter au jeu et de me prêter à ce jeu qui est pour moi nouveau puisque je n'ai jamais fait ça, un épisode solo. Donc je voulais me présenter de nouveau à vous. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon enfance, où est-ce que je suis née, etc. Mais j'ai décidé de commencer cet épisode par ça et parce que c'est aussi l'enfance qui définit la femme, la personne qu'on devient. Donc je pense que c'est une partie qui est importante et qui a joué un rôle, on va dire, dans la construction de ma personne, de la femme que je suis aujourd'hui. Donc moi, je suis née à Besançon, donc dans le Doubs. Département 25. On dit des gens qui naissent à Besançon que c'est des bisontines, donc pour les femmes, et des bisontins pour les hommes. Pas hyper sexy, mais voilà, c'est le terme. Donc je suis bisontine. Je suis partie à peu près à l'âge de mes 5 ans de Besançon, puisque mes parents ont divorcé quand j'étais jeune. Du coup, voilà, j'avais à peu près 5 ans, un petit peu avant. Et on est parti de Besançon vers mes 5 ans. Et en fait, je voulais commencer par cette histoire parce que un divorce, même s'il y en a beaucoup, on est beaucoup à avoir des parents qui ont divorcé, à être ce qu'on appelle des enfants de divorcés. Ça fait mal, c'est des épreuves de vie qui sont pas faciles, qu'on vit comme on peut et on gère ces moments-là comme on peut. Surtout quand on est enfant, c'est pas hyper simple de gérer ça. Donc c'est pour ça que je voulais commencer cet épisode en vous racontant cette histoire, enfin du moins en vous racontant ce passage-là. On va pas aller dans les détails, hein, mais pour vous raconter un petit peu mon histoire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma maman a rencontré le deuxième homme de sa vie, donc quand j'étais une toute petite fille, et elle a fait le choix de partir avec cette personne et de commencer une nouvelle vie avec cette personne. Il s'avère que cette nouvelle vie allait être dans le sud de la France. Et donc, on allait devoir déménager et faire des centaines de kilomètres pour justement aller s'installer dans le sud de la France. Donc, c'est une période voilà, qui n'a pas été simple. Mais je voulais aussi vous parler de ça pour justement vous dire que la première locomotive de ma vie, la première locomotive que j'ai connue, bah, c'est ma mère. C'est ma mère parce qu'elle a osé prendre une décision qui était franchement pas facile, surtout à l'époque, décider de voilà de divorcer, de partir avec quelqu'un d'autre, et en plus de ça, décider de déménager à des centaines de kilomètres du père de ses enfants. C'est une décision qui est super difficile à prendre et qu'elle a pris. Et en fait, comment vous dire, c'est des décisions qui font partie de la vie. Il y a des moments dans la vie où effectivement on a des choix à faire qui sont pas faciles et qui, oui, vont avoir des conséquences, mais c'est toujours cette idée de se dire, est-ce que je suis prête à prendre cette décision et évidemment à en assumer les conséquences. Et le choix qu'elle a fait, si vous voulez, je trouve qu'il est hyper courageux parce qu'elle a décidé de se choisir. Et tout le monde n'ose pas aujourd'hui de se choisir parce qu'on a peur que ça ait des répercussions sur nos enfants, sur plein de choses en fait, sur notre entourage, le jugement des autres, etc. Et donc évidemment, on n'y échappe pas en plus à cette période à l'époque où c'était encore moins dans les mœurs. Donc les femmes étaient hyper jugées en fait pour ce genre de décision. Et elle l'a fait. Elle a décidé de vivre la vie qu'elle avait envie de vivre avec l'homme qu'elle aimait et de changer complètement de vie en fait, de prendre un virage à 180 degrés. Choix qui aujourd'hui, je le vois en tant que femme, je le vois comme étant un choix super courageux d'une femme super courageuse. Et même si c'est un choix qui peut être hyper difficile et pour lequel on peut culpabiliser, parce que évidemment les divorces c'est jamais simple, en plus déménager, etc., c'est quelque chose qui est pas facile. Mais voilà, je voulais vous donner cet exemple parce que ça fait partie des choses qui ont marqué mon enfance et ma vie, et c'est aussi, je trouve, un très bon exemple de locomotive qui implique parfois des exemples qui sont pas simples et qui ont des conséquences pas super faciles. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Donc j'arrive à 5-6 ans dans le sud de la France, donc nouvelle vie, un beau-père que je ne connaissais pas. Pas hyper facile, mais c'est mon histoire et c'est... Et honnêtement, aujourd'hui, avec du recul, pour rien au monde, j'aimerais que ça change. Alors qu'effectivement, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir des parents qui s'aiment et qui divorcent pas et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas la vie. La vie, en fait, c'est pas ça. Et parfois, effectivement, les parents viennent à se séparer parce qu'il y a plus d'amour ou parce qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Et c'est la vie. Et ça fait partie de la vie, et c'est OK. Et je vous le redis, je ne changerai pour rien au monde le cours de notre histoire. Parce que, j'ai vécu... Enfin, une fois arrivée dans le Sud, effectivement, il y a eu des passages compliqués, hein, clairement. Moi, j'étais une petite fille, en plus, hyper stressée. Je mangeais pas beaucoup, je faisais beaucoup d'angoisse le soir dans mon lit. Enfin, bien sûr que j'étais pleine d'angoisse et pleine de peur et pleine de choses que j'arrivais pas à exprimer, ça c'est certain. Mais ensuite, s'en est suivi une enfance incroyable. Enfin, juste, j'ai eu une enfance géniale dans le Sud. Pour moi, j'avais l'impression d'être dans le monde des bisounours, quoi. Enfin, c'était merveilleux, honnêtement. Donc voilà. Mais tout ça pour dire quand même qu'il y a eu une période de ma vie où j'avais un gros, gros manque de confiance en moi, vraiment. J'avais un peu deux facettes, en fait. Mais je pense qu'on a tous plusieurs facettes. Et à un moment donné, on choisit d'en développer une plus que d'autres, peut-être. Mais en tout cas, j'avais deux facettes. C'est-à-dire qu'à l'école, avec mes copines, que je connaissais très bien, avec lesquelles je me sentais très bien, j'étais très à l'aise, plutôt du style à être une leaduse. On m'appelait aussi un peu la commandante. Surnom pas hyper génial, mais c'est vrai, je pense que j'étais un peu comme ça. J'aimais bien prendre des décisions, décider, commander. Et là, mes copines, si jamais elles m'écoutent, elles rigoleraient parce qu'elles savent que j'ai un petit peu ce côté-là. Donc, c'est pas du tout étonnant, finalement. Et donc, il y avait d'autres moments de ma vie, dans d'autres sphères, dans d'autres contextes, en fait, puisque c'est souvent une question de contexte, où j'étais pas du tout à l'aise, c'est-à-dire que j'étais l'opposé. Honnêtement, et même moi, je le savais, je me disais, mais c'est marrant parce que si les gens me voyaient dans mon univers, dans mon école, avec mes copines, etc., clairement, ils reconnaîtraient pas. Ils reconnaîtraient pas la personne que je suis. Donc, en fait, c'est drôle parce que, dans d'autres univers, je n'existais pas. Et d'ailleurs, je préférais ne pas exister. Je préférais qu'on me regarde pas, qu'on me pose pas de questions, qu'on me parle pas. J'étais tellement introvertie et pas bien, en fait, que, je préférais ne pas exister. J'ai même une personne de ma famille un petit peu plus lointaine, qui m'a revue il y a quelques années et qui m'a dit « Non mais Sandra, c'est pas possible, je te reconnais pas en fait. Enfin, t'étais pas extravertie comme ça avant, t'avais pas cette confiance-là en toi, t'étais pas extrêmement sociable, enfin, t'étais dans les jupes de tes parents et introvertie en fait. » Et ça m'a fait rire parce que j'ai dit « Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai, je comprends que tu me reconnaisses pas. » Et oui, effectivement, j'ai des moments de ma vie où je me sentais complètement introvertie et j'étais pleinement dans ce rôle-là, quoi. Enfin, ouais, j'étais terrifiée, quoi. En fait, terrifiée par les autres. J'avais très, très peur des autres. Je trouvais que les autres étaient impressionnants, en fait. Je trouvais que tout le monde avait vachement plus de confiance que je n'en avais. Donc, j'étais extrêmement impressionnée, en fait, par les autres, tout simplement. Et donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu, cette période qui a duré longtemps. Hein. Franchement, ça a duré très très longtemps, cette période où j'étais un peu, j'avais deux facettes. Un jour, d'ailleurs, je me rappelle, mon père, il m'a dit « Non mais toi, tu caches bien ton jeu ». Et je pense qu'il a compris, il m'a cerné. Bon, c'est mon père en même temps, mais du coup, il m'a bien cerné. Il a compris que j'avais deux facettes et qu'une ne s'exprimait pas pleinement, en fait. Et par contre, chose que j'ai compris plus tard, c'est que cette part de moi, donc le côté plus extraverti, plus sociable, plus épanouie, avait vraiment besoin de s'exprimer davantage, mais je n'arrivais pas encore à m'exprimer. Pour plein de choses, parce que voilà, le divorce m'avait énormément chamboulé, ce gros changement de partir à l'autre bout de la France, dans un environnement que je connais pas, avec un beau-père que je connais pas, un papa qui finalement est loin, donc plus une vie de famille, même si j'ai franchement zéro souvenir hein, de mes parents ensemble. Je pense que j'ai fait une espèce de blackout, hein. J'ai un peu supprimé une partie de mon enfance, je pense, parce que sûrement qu'il y a eu des choses qui font mal et qu'on oublie, en fait, qu'on choisit d'oublier inconsciemment. Donc, j'ai aucun souvenir de mes parents ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est un grand regret que j'ai. J'aurais adoré avoir des souvenirs, je sais pas, de vacances en famille. Voilà. Et donc, je raconte ça aussi, donc, comme je vous l'ai dit, parce que je trouve que c'est un bon exemple d'être la locomotive de sa vie. Et parce que je sais que beaucoup de femmes ont des choix difficiles à faire dans leur vie. Et elles culpabilisent parce que, elles sont mamans, parce que ça implique beaucoup de choses. Donc, je voulais vous dire, voilà, déjà, une première chose, ne culpabilisez pas de vous choisir. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de faire les choses au mieux, de communiquer un maximum sur la situation et les choix que vous allez faire et pourquoi vous allez les faire, et de pas être dans le secret défense et dans le non-dit, mais plutôt dans l'ultra-communication pour faire en sorte que la situation et ce changement de vie, cette décision se passe au mieux. Voilà pour cette petite partie de mon enfance qui a été vraiment un moment très important. Et d'ailleurs, ensuite, j'ai associé tous les changements de ma vie à quelque chose qui me terrifiait. Donc, le changement représentait quelque chose pour moi de terrifiant, puisque je l'avais associé au divorce, etc. On m'a appelé pendant très longtemps, et ça, je vous l'ai déjà dit, on m'a appelé peur de tout. Et ça, c'est pareil, c'est un rôle dans lequel je me suis vachement confortée. J'étais devenue peur de tout, en fait. J'avais peur de tout, c'était devenu ma réalité, donc une réalité pour les autres, mais aussi une réalité pour moi. Et j'en avais fait une réalité. C'est souvent, vous savez, on se conforte un petit peu dans un truc, alors que c'est pas forcément qui on est, mais comme on l'a entendu, à plusieurs reprises, qu'on nous a dit « tu es comme ci, tu es comme ça », on finit par le croire et ça finit par devenir la réalité, en fait, alors que c'est pas la réalité. Alors que, au fond, non, j'avais pas peur de tout. Et je pense que, ouais, j'aurais pu évoluer autrement que dans la peur. Mais ouais, j'ai évolué vraiment dans le truc de j'ai peur de tout. Même encore aujourd'hui, j'ai plus peur que la moyenne de certaines choses. Et j'essaie de me dire, non, Sandra, franchement, retombe pas dans tes trucs, c'est bon, quoi. C'est bon, stop, arrête avec ça, quoi. Et donc, il y a eu une grande période de ma vie où, ouais, j'avais un petit peu toujours cette boule au ventre. Je me rappelle même un jour demander à une copine, non, mais toi aussi, t'as mal au ventre tous les jours. Et elle m'explique que, pas du tout. Elle a pas mal au ventre tous les jours et que ce n'est a priori pas normal d'avoir mal au ventre tous les jours. Et donc, ça, c'est le jour où j'ai pris conscience que, j'avais effectivement des angoisses en moi et que j'avais des choses enfouies en moi et que ce n'était pas normal de se sentir mal tous les jours, d'avoir ce petit mal au ventre qui était logé en moi, en fait. C'était pas normal, en fait. On devrait se sentir bien et ne ressentir rien dans son ventre. En tout cas, rien qui nous fait souffrir, entre guillemets. Et donc, il y a eu cette période où vraiment, ça a été pendant toute la période de l'adolescence, je dirais, où j'avais l'impression de pas avoir de personnalité. C'est un peu dur à dire comme ça me fait rire à chaque fois que je dis ça. Mais c'était vraiment ça. J'avais l'impression de pas avoir de personnalité et pas avoir de personnalité, c'est un petit peu fort quand même, mais ouais, je trouvais que, en tout cas, j'étais pas celle que je voulais être. Ça, c'est certain. J'étais pas celle que je voulais être. Et d'ailleurs, je savais pas ce que je voulais faire plus tard, mais je savais quel type de femme je voulais être. Je voulais avoir confiance en moi. Je voulais me sentir forte. Je voulais avoir une forte personnalité. Je voulais moi aussi avoir mes propres opinions, dire ce que je pense. Et vraiment avoir des opinions, parce que à l'époque, vraiment, je me rappelle, j'avais pas d'opinion. Alors peut-être que la plupart des jeunes, j'en sais rien, hein. Peut-être que quand on est jeune, on n'a pas d'opinion et qu'on suit un petit peu ce qu'on entend. Mais moi, c'était vraiment ça. Et je me disais, mais c'est marrant que j'ai pas d'opinion. Parce que j'en avais vraiment pas. Et je savais vraiment pas pas ce que je pensais à propos de tel ou tel sujet. Donc ça, c'est un truc qui m'a vachement perturbée. Je voulais avoir des opinions et avoir cette personnalité assez impactante, en fait. Et donc, j'avais cette espèce d'admiration pour les jeunes femmes. Il y en avait plein que je trouvais tellement plus confiantes que moi, tellement plus à l'aise, qui avaient l'air si fortes, si à l'aise dans leur corps aussi. Enfin, et ouais, j'ai toujours trouvé que les femmes étaient tellement inspirante. Enfin, je pense que ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a un lien un petit peu, je pense, avec le rêve que j'avais. Je voulais être coiffeuse. Donc, c'est aussi un univers de femmes. J'ai toujours adoré les salons de coiffure. Je trouve que dans les salons de coiffure, il n'y a plus de barrière, en fait, entre toutes les femmes. Il n'y a pas ce truc... ben voilà, on ne sait pas qui vient d'où. On s'en fout. Tout le monde papote avec tout le monde. Enfin, moi, je me rappelle, j'allais dans un salon de coiffure à Biot, et c'est vrai que c'était une super ambiance, quoi. Enfin, ça rigole, tout le monde gossipe sur sa vie, et en plus de ça, dans un salon de coiffure, on ressort, on est plus belle que quand on est arrivé. C'est toute une symbolique, en fait, pour moi. Enfin, aujourd'hui, j'arrive à faire cette analyse-là, mais quand j'étais petite, je savais pas pourquoi je voulais devenir coiffeuse. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours une raison. Donc voilà, petite fille semi-introvertie, semi-commandante, qui sait pas ce qu'elle veut... Enfin, petite fille et ensuite ado, qui sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, mais qui sait ce qu'elle veut devenir. Qui sait en tout cas quel type de femme elle veut devenir. Après, je pense que j'ai toujours eu ce côté un petit peu déterminé. J'ai toujours été quelqu'un de dynamique, de motivé, persévérante. J'ai toujours adoré travailler. Enfin, l'école, ça a jamais été un problème. C'est quelque chose qui me plaisait, en fait, hein, tout simplement. Et donc ça, je pense que ça a toujours fait partie de ma personnalité travailleuse, un peu le syndrome de la meilleure élève qui veut faire partie des meilleurs. Alors effectivement, quand je suis arrivée en première S, tout ça, ça s'est un petit peu... effondré parce que effectivement au lycée on va dire que j'ai découvert les relations amoureuses, donc j'étais un petit peu plus là-dedans que dans l'école, en fait. Et en plus de ça, c'était super dur, enfin, et en plus de ça, je pense que j'étais pas à ma place, tout simplement, en scientifique, j'étais pas à ma place. Mais rien à voir. D'ailleurs, je sentais bien que j'étais pas à ma place, hein. Je le sentais bien. Mais il s'avère que dans ma famille, en fait, donc, du coup, divorce, ce qui implique famille recomposée. Donc, en tout, moi, j'ai une vraie sœur, une vraie grande sœur de mon père et de ma mère. J'ai une demi-sœur, donc, de mon père et de ma belle-mère. Et ensuite, j'ai des frères et sœurs des premiers mariages de mon beau-père et du premier mariage de ma belle-mère. Donc, en tout, j'ai quatre sœurs et deux frères. Et ça aussi, mais c'est génial. Enfin, pour rien au monde, je changerais ça. Mais c'est tellement génial d'avoir des demi-frères et sœurs. Aujourd'hui, je dis même pas demi-frères, demi-sœurs. Je dis c'est mes frères et sœurs. Enfin, c'est tellement, tellement, tellement génial. Et tout ça pour dire que, du coup, ma sœur et mon frère du côté de mon beau-père avaient fait un bac S. Ma grande sœur avait fait un bac S. En fait, tout le monde avait fait un bac S. Et du coup, je me sentais dans l'obligation de faire un bac S. Et surtout qu'on me faisait comprendre gentiment que le bac S ouvrait toutes les portes, que c'était la meilleure des filières, etc. Et moi, je l'ai vraiment interprété comme fais ça parce que c'est la meilleure des filières et tout le monde, tes frères, ton frère et ta grande sœur et ton autre sœur l'a fait, donc fais-le aussi. Donc je l'ai fait, mais franchement à contre-cœur, et ouais, clairement, j'étais pas à ma place. Enfin, je pense que j'aurais été mieux en bac ES, je sais pas, avec option anglais ou économie ou maths, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, j'étais pas à ma place. Bref, donc je me retrouve à faire un bac scientifique. Je l'ai pas du tout au la main. Je l'ai de justesse, mais vraiment de justesse. En plus, j'avais fait l'impasse sur la philo, sur l'histoire géo aussi. Je détestais l'histoire géo. Quel regret d'ailleurs. Quel regret d'avoir loupé les cours d'histoire géo. Enfin, franchement, ça me fait rire de repenser à tout ça. Gros regret, parce que j'ai de grosses lacunes en histoire. Vraiment, c'est dramatique. Et j'ai plus honte de le dire parce que c'est pas un secret. Et un jour, je rattraperai tout ça, je rattraperai tout ce temps perdu parce que maintenant, ça me tient à cœur. Et je me rappelle quand j'étais ado, je disais tout le temps, non mais j'en ai rien à foutre de l'histoire, ce qui compte, c'est le présent. C'est marrant que je sais pas pourquoi je disais ça. Et je disais que tout avait été de toute façon façonné et que on savait même pas si l'histoire qu'on nous racontait, c'était la vérité. Et c'est marrant parce que je me dis aujourd'hui, c'est quand même assez mature comme réflexion, parce que je pense qu'effectivement, il y a une petite part de vérité. On nous raconte certaines choses dans les livres comme on a envie de les raconter. Mais d'un côté, c'est tellement important de savoir ce qui s'est passé, comment les sociétés ont évolué. Enfin, c'est... Je sais pas, il y a tellement de choses intéressantes. Donc voilà, grosse lacune en histoire. Si vous avez des tips pour m'aider justement à combler ces lacunes, je suis preneuse. Voilà. Donc ensuite, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Donc je sais toujours pas. Donc je fais une école de commerce. Voilà, très bien. Enfin, cool. Ok, super. Ça m'a permis de faire deux stages à Londres, qui a été d'ailleurs une grosse révélation pour moi. J'ai adoré cette ville. C'est ma ville de cœur. C'est la ville que je préfère le plus au monde. J'ai découvert la vie là-bas, en fait. Hein, t'as la première fois que j'étais toute seule et j'ai découvert une vie qui me plaisait, une ouverture d'esprit de dingue, des gens venant de tout horizon, c'est hyper cosmopolite Londres, c'est l'ouverture d'esprit même, c'est des vibes incroyables, c'est la liberté d'expression, de s'exprimer comme on veut, de s'habiller comme on veut. Enfin moi ce qui m'avait marqué aussi c'est la manière dont on recrute les employés à Londres, c'est-à-dire que c'est pas du tout comme en France, on s'intéresse pas qu'au diplôme, au contraire on va aller chercher des personnalités, on va aller chercher des expériences et du coup tu te retrouves à bosser avec des gens de tout horizon et bref c'était génial. Enfin Londres ça a vraiment été deux passages importants, très importants dans ma vie et dans ma construction en tant que femme et pour me trouver en fait, trouver qui j'étais etc. Et ensuite, j'ai fait aussi un truc important qui m'a vraiment marqué, c'était mon rêve, je voulais absolument faire un échange sur un campus universitaire américain. Donc rêve super cliché, enfin avec toutes les séries à l'américaine qu'on pouvait regarder quand on était jeune, moi je voulais le vivre. Clairement, je voulais vivre la même chose que dans les séries, comme beaucoup de jeunes filles, je pense. Donc ce rêve, j'ai pu le réaliser grâce à l'école de commerce qui avait un partenariat avec une école en Caroline du Nord. Du coup, je suis partie en Caroline du Nord pendant un semestre. Et pareil, expérience de dingue. Franchement, expérience de dingue. Et ça, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans. Enfin, la vie passe tellement vite. Bref, c'était génial. C'était une des meilleures expériences de ma vie. C'était incroyable. Surtout qu'après, on avait fait toute la côte ouest. Ma sœur m'avait rejoint. On avait fait la côte ouest donc avec tous les amis que je m'étais fait là-bas. Et ma sœur qui m'avait rejoint. Exceptionnel. Ça, c'était un de mes rêves aussi. Je voulais absolument faire la côte ouest. Enfin, bref, c'était... exceptionnel. Franchement, rien à dire, c'était exceptionnel. Petite parenthèse, je tiens à dire que oui, bien sûr, donc j'ai eu des parents qui ont pu m'offrir une école de commerce, qui ont pu m'offrir un échange universitaire aux États-Unis. Et ça, je reconnais absolument toute la chance que j'ai pu avoir par rapport à ça. Par contre, on m'a toujours inculqué les valeurs du travail. Et c'est important, je tiens à le dire aussi, parce que dès que j'ai eu l'âge de bosser, donc 18 ans, j'ai bossé tous les étés pendant 5 ans. Donc je bossais sur des plages privées ici où j'habite, du coup où j'habitais dans le sud de la France. J'ai bossé 5 ans sur une plage à Juan-les-Pins et du coup, tu bosses énormément, hein, clairement. Tu bosses 11 heures par jour, 6 jours par semaine, donc tu as un seul jour de congé. Et par contre, tu te fais beaucoup d'argent pour des emplois comme ça, des emplois d'été. Et donc, j'y tenais à travailler et de toute façon, pour ma mère, c'était obligatoire quoi de travailler. Enfin, on va pas se la couler douce au bord de la piscine pendant que papa et maman s'occupent de tout. Non, c'était pas du tout l'éducation que j'ai reçue. Et du coup, j'ai bossé, j'ai mis de l'argent un peu de côté, j'ai essayé de prouver que je pouvais moi aussi subvenir un tout petit peu à mes besoins et pour réaliser mes rêves, on va dire. Et je pense que c'est important, ouais. Je pense que c'est important et c'est quelque chose que j'inculquerai à mes enfants. C'est dès que t'es en âge de bosser, va bosser en fait. Et je pense que c'est important. Voilà. Donc, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. Donc, 23 ans, je me retrouve à Paris. Je m'étais dit, OK, qu'est-ce que je veux faire? Moi, j'ai envie de faire un job qui me permet de voyager et de voir plein de pays. Donc, je me retrouve dans l'hôtellerie de luxe à faire partie d'un département, du département commercial externe. Donc, en gros, c'est les personnes qui s'occupent de voyager. Donc, en général, tu es assigné à une zone géographique. Donc, tu es spécialiste d'une zone géographique. Moi, je me suis retrouvée sur la zone Europe et Asie. Donc, je voyageais tous les mois, soit en Europe, soit en Asie. Et ça a duré pendant un an et demi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 25 ans, je voyageais partout dans le monde. Enfin, je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Et j'étais vraiment là où j'avais envie d'être. Donc, génial, encore une fois. Ensuite, j'en ai eu un petit peu marre. J'ai eu envie d'autre chose. J'ai eu envie de plus. Et j'ai eu l'opportunité de prendre la direction d'un petit hôtel à Paris. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, je teste. Gros challenge qui me faisait clairement flipper. Et surtout, c'était aussi l'idée de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait après qu'on, voilà, une fois que t'as dirigé un hôtel à 27 ans, un petit hôtel, qu'est-ce que tu fais? Enfin, est-ce que j'ai envie de diriger des hôtels toute ma vie? Je sais pas. Donc, j'avais vachement ce truc de, OK, mais qu'est-ce que ça va m'amener à quoi, en fait, de faire ça? et vous voyez, c'est marrant de, parce qu'avec du recul, je me dis, mais en fait, ce sont des questions qui sont inutiles parce que déjà, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en plus, la vie est pleine de surprises, donc il peut se passer plein de choses après. La preuve en est d'ailleurs. Et du coup, donc, je prends à 27 ans la première direction de cet hôtel qui s'appelait la Villa d'Aubenton, pardon. Et ça a été une de mes plus belles expériences professionnelles. J'ai adoré. Enfin, c'était magique. J'ai embauché tous les membres de mon équipe. C'est la première fois que je manageais une équipe. Et c'était aussi manager des gens dans l'opérationnel. Et il fallait qu'on travaille tous en symbiose pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire qui était de relever ce petit hôtel qui fonctionnait plus trop. Donc il y avait un vrai challenge en plus. Enfin, c'était super intéressant. Mais j'ai adoré. Et en plus, pour la première fois de ma vie, j'étais, c'est-à-dire dans un périmètre qui était pas défini, puisque du coup, t'es comme un chef d'entreprise, sauf que c'est pas ta boîte. Donc c'est un peu ce truc-là. Et là, j'ai compris que potentiellement, j'avais cette âme d'entrepreneuse et je ne le savais pas du tout. Donc je me suis éclatée. Ensuite, j'ai été sur un autre hôtel du groupe un petit peu plus haut de gamme. Ensuite, je suis tombée enceinte. Et ensuite, j'ai eu un poste au siège quand je suis revenue après mon congé maternité. Et donc, à 29 ans, j'accouche de Léo. À 30 ans, je reviens de mon congé mat. Et je fais ce fameux burn-out sur lequel je ne vais pas revenir parce que je vous l'ai déjà raconté. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'en parle dans mes vidéos sur Instagram. J'en ai parlé dans l'épisode 60 aussi du podcast, le premier épisode dans lequel je passe derrière le micro. Donc voilà, c'est un sujet maintenant qui n'est plus du tout tabou. J'ai eu du mal à en parler au début. Aujourd'hui, j'en parle vraiment, vraiment librement. Ça a été un burn-out sévère que j'ai fait avec des symptômes très forts. Donc j'avais du mal à en parler au début parce qu'on a l'impression qu'on va revivre ce qu'on a vécu. Mais aujourd'hui, j'en parle librement. Bref, je fais ce burn-out et j'avais déjà commencé à me poser des questions sur... je sentais bien que j'avais besoin de plus, je sentais que j'avais plus de potentiel, je sentais que j'avais des capacités à exploiter, à développer ailleurs, je sentais que j'avais un potentiel ailleurs qui n'était pas dans cet environnement de l'hôtellerie. En tout cas, je sentais que j'avais envie de faire autre chose, de créer un projet qui émanait de moi, de donner plus de sens à ma vie, d'avoir plus d'impact. Et du coup, je commence à revenir un peu, vous voyez, sur cette idée des femmes. Comme quoi, je vous ai raconté... ce que j'ai vécu dans mon enfance, que les femmes déjà à l'époque m'inspiraient énormément, ce projet de vouloir monter un salon de coiffure. Enfin, vous voyez, il y a toujours cette ligne directrice des femmes. Et je fais une petite parenthèse aussi avec mes grands-mères qui, les deux m'ont inspirée, mais une particulièrement m'a toujours énormément inspirée de par sa force de caractère. Et elle m'a toujours dit « crée-toi ta liberté financière, crée-toi ta liberté financière, ne te marie pas trop jeune, ne te marie pas trop jeune ». Donc les femmes ont vraiment fait partie de ma vie, hein, comme ma mère qui m'a beaucoup inspirée, ma grande sœur aussi. J'ai toujours été très inspirée par les femmes. Et je trouve que les femmes sont une source d'inspiration de dingue. Bref, où j'en suis. Donc voilà, donc je prends conscience. Mais pareil, là, je vais le faire très bref parce que je vous l'ai déjà raconté mille fois. Je prends conscience qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi qui se résignent à vivre une vie qu'elles n'ont pas envie de vivre, qui ont des projets en tête mais auxquels elles n'osent pas donner vie. Et je me dis, mais c'est marrant parce qu'en fait, moi aussi, je fais partie de ces femmes. En fait, je fais partie de ces femmes qui n'osent pas créer la vie qu'elles ont envie de vivre, alors que je sentais très bien à cette époque-là que j'étais pas plus en tout cas totalement actrice de ma vie et que j'avais envie d'autre chose. Mais genre, c'était viscéral, quoi. Vraiment, c'était vraiment viscéral. J'avais vraiment envie d'autre chose. Et il fallait que je le fasse. Et donc, le fameux burn-out qui me tombe dessus, le Covid. Donc là, on voit une fenêtre de tir énorme avec mon chéri. Et je lui dis, écoute, moi, je veux me barrer. Paris, j'en peux plus. Je suis à bout. Et clairement, enfin, j'avais pas besoin de le démontrer, hein, vu que j'avais fait 4 mois de période très, très compliquée avec le burn-out. C'était pas un sujet. Et donc, on saisit l'occasion et je vais pas le raconter. Et donc, gros changement de vie, etc. On part dans le sud. Je prends un poste pour diriger une start-up dans l'innovation à Sophia Antipolis. Je continue, enfin, entre-temps, je lance les locomotives, etc., etc. Donc, il faut savoir que le premier épisode, je l'ai lancé en mai 2020 et qu'à la fin de cet épisode, je vais d'ailleurs vous dévoiler un truc parce que ça sera là très bientôt les 3 ans des locomotives et vous vous en doutez bien que nous allons marquer le coup. Mais je vous dévoile tout ça à la fin de cet épisode. Donc, je lance le premier épisode en mai 2020 et pendant 1 an et demi, c'était vraiment un petit peu à l'arrache, quoi. C'était toujours du last minute, les invités, les enregistrements aussi. Je savais pas trop comment on faisait pour avoir un son plus ou moins bien. Même je savais pas interviewer. Enfin bref, voilà. Et donc, c'est là où j'ai vraiment envie de vous raconter un petit peu l'évolution et surtout les galères que j'ai rencontrées. Parce qu'aujourd'hui, on me demande surtout comment t'as fait Sandra pour en arriver là. Et on imagine que ça s'est fait facilement, que ça coule tranquillou. Mais pas du tout. Pas du tout. J'ai connu plein de galères et c'est ça que je voulais vous dire aussi à travers cet épisode, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'aider davantage de femmes qui ont envie de se lancer, de donner vie à des projets, des entrepreneuses, d'autant plus les mamans entrepreneuses. Enfin, je me sens vraiment... je sens que j'ai beaucoup à donner, en fait, là-dessus, et j'ai envie de donner plus sur cette partie-là. Et donc, j'avais envie que dans cet épisode, de vous partager les choses en toute transparence, parce que je pense que c'est important que vous vous rendiez compte, en fait, bah, qu'on est comme vous toutes et qu'on connaît des galères, en fait. Donc, moi, il faut savoir, j'ai lancé le podcast donc en 2020, et pendant un an et demi, j'ai pas dépassé 250 écoutes par épisode, ce qui est vraiment peu. Et voilà, en fait, j'ai pas dépassé 250 écoutes par épisode, mais j'étais passionnée parce que, par ses interviews, par ses découvertes de femmes, enfin, c'était juste exceptionnel. Je m'éclatais, en fait, c'était mon truc. Même si c'était du bénévolat, je m'éclatais pleinement, en fait. Mais pour vous dire que voilà, j'ai galéré, en fait, à dépasser un certain niveau d'écoute, donc j'ai atteint les 5000 écoutes, j'étais trop fière d'avoir atteint les 5000 écoutes par mois, et ça a duré longtemps, vraiment ça a duré longtemps, avant que je pète les 10 000 et au-delà, etc. Vraiment ça a duré longtemps, j'ai eu vraiment une période de stagnation qui a été super longue. Donc ça, c'est la première galère qui était pour moi une galère que j'ai rencontrée. Je pense que je trouve ça long. Peut-être que vous allez dire, bah non, c'est rapide, mais moi je trouvais ça long. Et je me souviens d'une période où je poste un post sur un groupe Facebook de podcasteuses et je dis justement, oh là là, mais comment est-ce qu'on fait pour dépasser les 250 écoutes par épisode? Donnez-moi des tips, bref, aidez-moi, help. Et une fille me dit, mais quelle est l'importance du nombre d'écoutes? On s'en fiche, ce qui compte, c'est ton évolution, etc. Alors, je trouve que c'est cool, hein, niveau mindset, ouais, ok, je comprends. Par contre, quand tu lances un podcast et que tu as pour projet ensuite d'en vivre, de créer un business autour de ça, évidemment que le nombre d'écoutes est important, puisque c'est ton canal d'acquisition majeur, en fait, central. Donc, évidemment que c'est important. Et du coup, je pense que à ce moment-là, et c'est ça aussi dont je voulais vous parler, j'avais pas de stratégie, j'avais pas d'objectif. Enfin, franchement, j'étais vraiment à la ramasse, vraiment. Et je pense que c'est important, et j'ai envie de vous le dire aussi, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. C'est-à-dire, si vous lancez quelque chose, un projet, ben, ayez des objectifs et faites en sorte de mettre des stratégies en place, de vous former, parce que oui, ça se fait pas tout seul, en fait. Lancer un business, c'est pas magique, clairement. Donc, quand j'ai quitté mon CDI, c'était... donc, mon dernier jour, c'était le 31 juin 2021. Et le 1er juillet 2021, je fais le lancement de mon premier programme d'auto-coaching que j'avais construit quelques mois auparavant. Et donc là, c'est pareil, pour parler des galères. Je fais un lancement et, en toute transparence, je fais 19 ventes. Ce programme coûtait 69 €. Je m'étais dit, ouais, bon, bah super, je vais en vendre 100 par mois, donc je gagnerai 6 900 € par mois. Mais super, c'est génial, en fait. Et en fait, bah, vous vous doutez bien que ça ne se passe pas du tout comme ça, hein, dans la réalité. Surtout quand on a une petite communauté, bah, une des erreurs à ne pas faire, c'est de justement se concentrer sur un produit à petit prix. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on appelle un produit high ticket, donc un produit à prix élevé. En général, on parle de prix à plus de 1 000 €. Parce que quand on est une petite communauté, il est difficile de vendre beaucoup de produits à petit prix pour réussir à gagner notre vie de manière convenable. Donc, première erreur, il y avait plein d'erreurs, en fait. La première erreur, c'est que je n'avais pas de stratégie parce que je ne m'étais pas formée, justement, à comment est-ce qu'on lance un produit, comment est-ce qu'on prépare son lancement, le pré-lancement, etc. Ça, je n'étais pas du tout préparée à ça. En plus de ça, le prix n'était pas bon. C'était vraiment, vraiment pas cher. Je m'adressais pas à la bonne cible. Rien n'allait, en fait. Rien n'allait. Et je me suis pas découragée pour autant parce que, en fait, dans cette partie-là, j'étais dans les 6 premiers mois de cette nouvelle aventure. Donc, c'était vraiment la découverte. Et puis, si vous voulez, j'étais dans une espèce de période de contemplation. En fait, je contemplais cette nouvelle vie, cette liberté à laquelle j'avais jamais goûté parce que j'avais toujours été en CDI. J'étais libre comme l'air, quoi. Enfin, et ça, c'était un moment qui était fou et j'avais envie un petit peu d'en profiter. Donc je pense que j'ai eu un gros moment de stress, c'est-à-dire la période juste avant de quitter mon CDI, juste avant de prendre cette décision, ça a été les moments les plus stressants pour moi. Et ensuite, il y a eu, bah, c'était l'été, donc je suis partie en vacances. Alors, Il faut pas, c'est-à-dire que je suis pas partie en vacances en mode wouhou freestyle. J'avais quand même un peu de stress et comment je vais tout mettre en place. C'est quoi mon next move? J'étais un petit peu stressée. Par contre, j'étais vraiment dans cette période de contemplation de waouh, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais ce que je veux selon mes propres règles. Je n'ai plus d'horaire. J'ai plus de réveil. Si j'ai envie de commencer à bosser à 10h, je commence à 10h. Finir à 22h, je finis à 22h. Si j'ai envie de faire du paddle le mardi matin sur la mer, je vais faire une heure de paddle le mardi matin sur la mer. Je m'organise comme je veux. Si j'ai envie de bosser le week-end un petit peu, je bosse un petit peu le week-end. Je n'ai plus de règles, en fait. Je n'ai plus de règles. Je peux créer, et c'était mon but, mon rêve ultime, je peux enfin créer une vie à mon image, construire une vie comme j'ai envie de la construire. Et ça, c'était vraiment énorme. Ça, c'est un truc... j'ai eu cette période de gratitude, mais énorme, que j'ai toujours. Je cultive toujours énormément la gratitude dans ma vie parce que ça m'aide à toujours à garder les pieds sur terre, à voir le positif, à me rendre compte de j'aime pas dire la chance que j'ai, mais on va le dire, de la chance que j'ai, de toutes ces petites choses que j'ai dans ma vie et que j'ai pu créer et qui aujourd'hui... font partie de ma vie. Bref, j'ai énormément de la gratitude, ne serait-ce qu'envers l'endroit où on vit, la région, enfin tout en fait, voilà. Donc là, c'était un peu la période de contemplation, donc on va dire que j'ai perdu 6 mois. Quand je dis perdu 6 mois, c'est que je parle 6 mois de perte dans le business en fait, puisque j'ai pas utilisé ces 6 mois autant que j'aurais pu. Après, on va dire, j'ai reboosté mon énergie, quoi. On va dire que je me suis branchée à une prise et que du coup, ça m'a permis de me régénérer. Hein. Et donc, c'est pas perdu, mais effectivement, attention, parce que en général, quand on quitte un job et que on fait du coup une rupture conventionnelle, le temps nous est compté. Puisqu'il y a un moment donné où vraiment il faut que ton business fonctionne, puisque c'est la seule chose qui va te rémunérer en fait. Donc pendant cette période-là, voilà, c'était un petit peu, je me la suis un petit peu coulée douce, on va dire, même si j'ai entrepris des choses. J'ai fait une première formation de marketing digital, justement pour apprendre à définir son persona, revoir les bases, on va dire, même si je les connaissais, mais j'avais vraiment besoin de me replonger dedans avec une coach, etc. Et c'est là, si vous voulez, que j'ai compris à quel point investir sur soi et dans son business, c'était... mes clés. C'est hyper important. D'une part, ça te permet d'être accompagné par des gens qui sont plus experts que toi, mais ça te permet tout simplement aussi de monter en compétences, d'améliorer des choses dans ta stratégie, ça te permet vachement de choses. Donc c'est de l'argent, mais c'est de l'argent que tu investis en fait. Il y aura un retour sur cet investissement si tu fais les choses correctement. Et donc ensuite, j'ai vraiment compris que c'était hyper important que je continue comme ça à me former. Donc j'ai fait d'autres formations, 2, 3, 4 formations avec d'autres experts dans différents domaines pour toujours cette idée d'être entouré par des experts. Je pense que c'est hyper important. Et moi-même, monter en compétences et devenir bien meilleure que ce que je ne l'étais en fait. Devenir experte dans certains périmètres, dans certains domaines dans lesquels j'évolue aujourd'hui. Donc, deuxième erreur que j'ai faite, c'est ce fameux lancement et de me la couler un petit peu douce pendant ces 6 premiers mois, même si ça m'a permis effectivement de me régénérer. Il faut savoir que j'ai vraiment un profil de fonceuse, que ça soit dans la vie ou un profil là en tant qu'entrepreneuse de fonceuse. Et donc c'est très bien hein, parce que t'es toujours dans l'action et t'es pas dans ce truc j'attends que tout soit parfait pour faire et pour passer à l'action. Donc c'est très bien. Par contre, du coup, tu fais beaucoup d'erreurs. Donc c'est vraiment mon cas. Moi, je suis totalement comme ça. Et même en me disant mince, je m'étais dit que je devais plus fonctionner comme ça, je l'ai refait. C'est-à-dire que j'ai toujours refait, continuer à être dans le même schéma, à tester, à foncer, à mettre en place, à faire des erreurs, à me planter, à me dire mince, j'aurais peut-être dû faire autrement. Voilà, donc ça, il faut savoir que c'est aussi une part de ma personnalité qui fait que j'ai fait beaucoup de petites erreurs, en fait. Après, je pars du principe que, un bon entrepreneur, donc une bonne entrepreneuse, c'est vraiment une personne qui est capable de se rendre compte que dans le chemin d'un entrepreneur, il y a des échecs, il y a des erreurs, et il y en a plein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu deviens un jour bon et l'un des meilleurs que tu ne feras plus d'erreurs. Tu feras d'autres erreurs, il y aura d'autres échecs, et c'est normal. Et je pense qu'il faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu à grandeur réelle, à grandeur nature. Et qu'il faut prendre autant de kiff, c'est un peu bizarre à dire, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je dis là aujourd'hui, vous comprendrez peut-être demain, mais c'est prendre autant de kiff dans les erreurs que dans les succès. Parce qu'en fait, les succès que tu vas connaître n'auront pas la même saveur si tu n'as pas eu d'échecs, si tu n'as pas eu d'erreurs. Il faut que tu comprennes que ça fait partie du game, en fait. Et si t'es pas prête à ça, si t'es pas prête à avoir des échecs, à connaître des erreurs, etc., c'est difficile d'avoir le bon état d'esprit d'entrepreneur. Et je pense que j'ai tout de suite compris compris ce truc que ok, l'entrepreneuriat c'est un jeu, et j'avais déjà de toute façon un peu cette vision de la vie dans le travail où ça a toujours été un jeu pour moi d'accéder à autre chose, de monter les échelons, de te fixer un objectif et de l'atteindre. J'ai toujours vu ça comme un jeu. C'est pour ça que dans le travail je me suis toujours éclatée, dans toutes mes expériences professionnelles d'ailleurs, parce que pour moi ça a toujours été un jeu. Mais voilà, bref, du coup des erreurs j'en ai connu plein. Une autre erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai lancé la première session de la Locomotive Academy. Donc ça s'appelait pas la Locomotive Academy à l'époque, d'ailleurs ça ne s'appelait pas, donc ça c'était une autre erreur, ça ne s'appelait pas, il n'y avait pas vraiment de nom. Et ça aussi, quand vous lancez quelque chose comme ça, essayez de créer un peu un esprit, un nom, un univers qui est toute une stratégie autour, enfin bref, mais tout ça, encore une fois, en fait, je voulais aller vite. Moi, je voulais voir est-ce que si je fais ça, ça marche, quel résultat je vais avoir. Toujours ce truc de foncer, tu te prends des murs, mais tu fonces, t'as besoin, en fait. Et je pense que c'était viscéral. J'avais besoin, pendant cette année 2022, de foncer, de me prendre des murs, de tester, de recommencer. Donc, je lance cette première académie, et pareil, là, je me dis, vas-y, je vais faire un prix bêta, hein, et je vais faire un truc quasi dérisoire, enfin... plus que moitié pris, en fait. Et ça, c'est pareil. Donc, c'est super, hein, mais ça va pas faire en sorte que t'as plus de personnes. Et ça, je le savais pas. Je m'étais dit, bon, ben, je vais faire un tout petit prix, comme ça, potentiellement, j'aurai plus de monde, ou ce sera plus simple. Mais en fait, non, c'est une erreur. Déjà, ça décrédibilise ce que tu proposes. Surtout quand tu proposes quelque chose qui promet des résultats qui sont assez forts. Un coaching de 3 mois avec un coach, des modules à faire en autonomie, etc. C'est quand même un gros truc, c'est pas rien. Et il y a de belles promesses derrière. Donc, vendre ça à 650 €, déjà, ça décrédibilise, ton produit. Première chose. Et deuxième chose, ce n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, bah, toi, t'as des charges, t'as du marketing, t'as des gens à payer, des coachs, etc. C'est pas rentable. Si tu fonctionne comme ça, en fait, il y a un moment donné, ça fonctionne pas et tu mets la clé sous la porte et c'était cool, c'était du bénévolat, mais ça n'ira pas plus loin. Et ça, c'est des choses où j'étais un peu trop go with the flow, mais j'avais besoin, je pense aussi, après cette période de burn-out, changement de vie, etc., j'avais vraiment besoin de faire les choses un peu en mode vibe cool, parce que c'est aussi qui je suis. Je bosse énormément, je suis une grosse travailleuse, j'ai une capacité de travail qui est assez énorme. Je peux bosser vraiment beaucoup, 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 beaucoup et faire beaucoup de choses rapidement. Mais par contre, j'ai quand même ce truc où j'ai besoin d'avoir une dynamique un peu cool, un peu parfois go with the flow, un peu ce truc d'avoir besoin d'être aligné, de faire les choses comme je le sens. Mais effectivement, j'ai pris conscience qu'il y a un moment donné, comme je le dis, si tu veux vivre de ton business, il faut te fixer des objectifs, il faut avoir une stratégie. Il y a un moment donné... tu peux plus fonctionner comme si t'étais une petite fée dans le monde des bisounours, quoi. Et donc ça, j'en ai pris conscience. Et je me suis dit, ok, Sandra, à un moment donné, passe le niveau au-dessus, passe aux choses sérieuses. Donc voilà, au niveau de l'état d'esprit, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi. J'ai pris conscience qu'il fallait que je change pas mal de choses dans mon attitude, que faire un business plan, c'était important, que d'avoir des objectifs, c'était important, que de regarder les stratégies, mais pas juste regarder qui fait quoi. Vraiment décortiquer quelles sont les meilleures stratégies, lesquelles sont les meilleures pour ton business. Donc là, effectivement, les tester, mais les tester avec un minimum d'organisation, quoi, pas de faire les trucs à l'arrache. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que je vous recommande. Regardez ce que font les meilleurs dans votre domaine et décortiquer leur stratégie. Vraiment décortiquer. On réinvente pas la roue. Alors bien sûr, tu vas avoir des choses que tu feras que toi, et parce que c'est ta manière de faire, et parce que chacun en a une patte différente, une personnalité différente, et c'est top. Mais si tu regardes bien, on réinvente pas la roue. Donc c'est hyper important de regarder ce que font les meilleurs. Quelles sont les meilleures stratégies? Qu'est-ce que je peux adapter moi à mon business, tester ce qui va fonctionner, écarter ce qui ne fonctionne pas, arrêter de mettre ton énergie dans des choses qui ne t'apportent rien, qui ne te rapportent rien pour ton business. Et si tu veux scale up, t'as pas d'autre choix. Le point important aussi pour accélérer ton business et pour passer au stade supérieur, c'est de se faire accompagner. Mais vraiment de se faire accompagner avec des experts business dans divers périmètres. Je dirais de se faire accompagner à 360. En tout cas, moi, c'était vraiment le besoin que j'avais dans mon cas, parce que je suis gémeaux. Donc, un gémeau par définition, enfin, si je dis pas de conneries, par définition, j'ai tendance à vouloir toucher à tout. Et du coup, ce qui fait qu'on n'est pas experte dans un domaine précis, mais qu'on va être plus ou moins bon dans tous les domaines. Et du coup, on n'est pas... Et c'est un problème, parce que du coup, on est moyen, en fait, dans tous les domaines, et on n'est pas expert dans un domaine précis. Moi, j'adore toucher à tout, je suis vraiment comme ça, mais le truc, c'est que là, pour le coup, j'avais vraiment besoin de monter en expertise dans des domaines vraiment précis et dans les périmètres qui allaient vraiment faire que mon business allait accélérer, quoi. Et donc, j'ai pris la décision d'investir de nouveau dans mon business et de suivre un accompagnement d'experts. Donc, c'est des experts qui t'accompagnent sur des périmètres différents, selon tes besoins, selon tes problématiques, selon les objectifs que tu as. Et ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises donc fin 2022 et qui était nécessaire. Il n'y a pas de secret. Et ça, c'est un truc que je voulais placer aussi dans l'épisode « Il n'y a pas de secret ». C'est-à-dire, toutes ces filles qui vous inspirent sur Instagram parce qu'elles ont créé des super business, elles ont bossé comme des dingues. Elles se sont formées, elles se sont fait accompagner, elles ont investi leur argent. Il n'y a pas de secret, il n'y en a pas qui sont arrivés là en un claquement de doigts par magie. Je pense que ça, il faut vraiment qu'on le réalise, même si on a l'impression qu'Instagram, c'est tout beau, c'est tout mignon, etc. Je pense qu'il faut quand même réaliser que bah, y a un taf énorme derrière. En fait, il y a un taf énorme derrière. Il y a aussi un gros boulot de remise en question. Être entrepreneur, c'est aussi avoir la capacité de se dire « Ok, là, j'ai pas été bon, donc il faut clairement que je reprenne tout ça et que je m'améliore et que je fasse les choses mieux et que je fasse appel à mieux que moi, en fait, à meilleur que moi. C'est hyper important. » Et c'est sûr que si on a un melon comme as, on va foncer dans le mur si on pense qu'on fait tout bien et qu'on fait tout mieux. Moi, je suis persuadée que j'ai des tonnes de choses à apprendre tout le temps, que ça soit de personnes qui ont 10 ans de moins que moi ou des personnes qui ont 20 ans d'expérience de plus que moi. Je pense que j'ai plein de choses à apprendre et que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et je pense que je fonctionnerai tout le temps comme ça, en fait, dans ma vie. Je pense qu'on a tout le temps des choses à apprendre, peu importe notre niveau d'expertise. Voilà, donc ce qui m'a permis aussi de faire évoluer mon business, donc c'est tout ça, et c'est aussi de déléguer. J'ai commencé petit à petit à déléguer, petite somme par petite somme, voir un petit peu ce qui m'aide vraiment, ce qui m'aide pas, donc arrêter ce que j'estimais pas utile, continuer ce que j'estimais être d'une valeur mais inestimable. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on peut plus mettre notre énergie partout, sinon, encore une fois, on s'épuise. Et je pense que, encore une fois, quand on est chef d'entreprise, ce qui est important, c'est de rester dans sa zone de génie. Ton énergie, la majeure partie de ton énergie doit aller dans ta zone de génie. Et pour te concentrer dans cette zone, il faut forcément que tu délègues d'autres choses à d'autres personnes qui vont pouvoir, du coup, te soulager sur certaines choses. On a parlé donc de pas mal des galères que j'ai rencontrées. Donc vous l'avez vu, pas de stratégie, besoin de monter en compétences, fonceuse, donc beaucoup d'erreurs. On se plante, on recommence et on peut vite retomber dans ces schémas de vouloir re-aller trop vite. J'ai fait énormément d'erreurs et vraiment tout ce que j'ai essayé de créer avec les locomotives, je l'ai fait toute seule. J'ai toujours rêvé, vous savez, d'avoir un coup de main énorme qu'on vient de me dire « Sandra, tiens, mais viens, je te tends la main, aide-moi, je t'ouvre toutes les portes, le réseau, le truc, le machin. » Bon, ben, j'ai jamais eu ça. Si aussi ça peut vous rassurer que c'était une question que vous aviez. Personne ne m'a jamais tendu la main. J'avais absolument pas de réseau et d'ailleurs, j'en ai toujours pas. Je n'ai pas eu de coup de grâce, j'ai pas eu d'aide particulière. Ça a été juste, ben, et ça l'est encore, hein, du énormément de travail, de passion, parce que de toute façon, je pourrais pas abattre tant de travail si j'avais pas autant de passion pour ce que je fais, de persévérance et de visualisation. J'ai un objectif en tête qui est très précis, c'est que je veux vraiment me créer la vie de mes rêves et que j'ai vraiment envie que les locomotives prennent encore plus de place dans ma vie, auprès des femmes, etc. J'ai tellement de choses à apporter. Encore plus aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure avec ma casquette d'entrepreneuse maintenant, et qu'il y a de plus en plus d'entrepreneuses, il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de se lancer. J'ai tellement de choses à apporter. Enfin bref, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et du coup, j'ai vraiment un objectif précis en tête. Donc je pense qu'il faut aussi prendre conscience de ton degré de motivation et te dire, bah, ok, pourquoi je veux lancer ce projet? Et il faut que cet objectif qui est derrière cette motivation soit quand même assez important pour que tu puisses entreprendre tout ce que tu vas entreprendre, surmonter tout ce qu'il va y avoir à surmonter, les épreuves, les coups durs, les nuits difficiles où on s'endort très tard parce qu'on pense à plein de choses. Là-dessus, enfin, il se passe plein de choses. Mais tout ça, enfin, faut pas le voir comme du négatif. Ça fait vraiment partie de l'expérience. Ça fait vraiment partie de l'aventure d'un entrepreneur. On a parlé, comme je disais, des échecs. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu des succès que j'ai pu rencontrer. Parce que c'est quand même sympa de parler aussi des succès. Le premier succès que j'ai rencontré, je dirais que c'est le premier gros succès, hein, parlons de gros succès, ça a été le podcast avec Caroline Receveur. Donc il faut savoir que Caroline Receveur, j'ai commencé à la suivre quand elle était enceinte, parce que moi-même, je suis tombée enceinte quelques mois après, et que j'avais pas grand monde, en fait, quasi personne, hein, qui était enceinte dans mon entourage. Et j'avais besoin de m'inspirer de femmes, de jeunes mamans, de jeunes femmes qui allaient devenir mamans, qui étaient aussi entrepreneuses, etc. J'avais vraiment besoin de me mettre dans cette vibe-là, de m'inspirer. Et j'ai commencé à suivre Caroline Receveur de très près. Et très vite, je me suis dit, oh, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore, en fait. Elle m'inspire énormément, toutes ces énergies qu'elle a, le fait qu'elle soit entrepreneuse, le fait qu'elle soit aussi un petit peu ancrée dans la spiritualité, qu'elle partage tout ça, qu'elle allait devenir maman, en plus d'un petit garçon. Moi, ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte d'un petit garçon. Elle a été vraiment d'une grande inspiration pour moi. Et donc, très vite, je me suis dit, OK, avoir Caroline Receveur à mon micro, ça sera un de mes objectifs. Et j'adorerais, quoi. J'adorerais échanger avec elle, lui poser les questions que j'avais à lui poser, l'avoir à mon micro, qu'elle fasse partie des locomotives. En fait, juste, je trouvais ça incroyable. Et donc, je lui écrivais régulièrement, je répondais à ses stories. Des fois, je lui envoyais un petit message pour lui proposer de passer dans mon podcast. De toute façon, elle répondait pas, donc voilà. Mais du coup, je continuais quand même à interagir avec son compte et avec ce qu'elle postait, de manière super sincère. Enfin, voilà, vraiment, à la suivre de très près. Et puis, je crois que, ouais, à force d'acharnement, et peut-être qu'elle a senti que c'était une démarche ultra sincère, un jour, je reçois un DM dans mes DM Insta. Et je vois que j'ai un message non lu de Caroline Receveur. Clairement, autant vous dire que là, ça a été, je pense, une de mes plus grosses joies que j'ai rencontrées durant cette aventure des locomotives. Alors oui, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais peu importe. J'étais vraiment très, très heureuse, en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu me dire? Et donc, j'ouvre le message et je vois, allez, c'est parti. Parce que je venais de lui redemander, viens, je t'attends à mon micro, Caro. Et là, elle me dit, allez, c'est parti, let's go. Et je me dis, mais what? Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bref, trop drôle. Enfin, trop drôle, trop génial. Et ça, ça a été un de mes plus gros succès. J'étais très heureuse. Et c'est marrant parce que, vous savez, ce truc de... On a un espèce de fantasme, de désir très profond. Et une fois que celui-ci est assouvi, eh ben, on ressent une espèce de blase. Ben, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est souvent ce qui peut se passer quand on est entrepreneur, qu'on a des gros succès ou des gros temps forts. Après, on va ressentir une petite période en mode blasé, en fait. Tout retombe. Et c'est souvent comme ça. En tout cas, moi, je trouve que ça ne fait... Alors, à plus ou moins grande ou petite échelle, pardon, mais c'est quelque chose qu'on peut souvent vivre dans une aventure entrepreneuriale. Et là, c'était un gros, gros, gros up. Donc, du coup, derrière, c'était un peu genre, bon, bah maintenant, c'est quoi mon goal, quoi. Alors qu'il y a plein, plein de femmes inspirantes, hein, mais c'était juste une retombée, en fait, suite à ce truc-là. Le deuxième gros succès que j'ai connu, c'était vraiment la barrière des 100 000 écoutes. Ça a été un énorme moment pour moi aussi. C'était vraiment la consécration de tous les efforts que j'avais mis dans ce projet, de tout ce travail, de toute cette énergie fournie, de toute cette persévérance. Et ouais, c'était une... Oh là là, c'était incroyable. Enfin, pour moi, c'était un vrai symbole. C'était très symbolique. Ça voulait dire, OK, ce que je fais maintenant, bah, ça fonctionne. J'ai un podcast qui a une belle visibilité, qui est écouté maintenant par... Enfin, c'est énorme, quoi, par des dizaines de milliers de femmes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un truc de dingue. En fait, ça y est, je suis dans le game, quoi. Et c'est tout con, parce que là, bah, on vient un petit peu flatter l'ego, mais c'est pas désagréable. Mais j'étais super heureuse. Enfin, vraiment, j'étais trop heureuse. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Juste incroyable. Tu te dis, OK, bah, maintenant, voilà, c'est... J'ai fait le taf de ce côté-là. Alors, bien sûr, il faut toujours garder la tête sur les épaules parce que tout peut retomber. Enfin, voilà, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Du coup, il faut continuer, persévérer, continuer à faire du bon travail, etc. C'est le plus important. Tout en gardant cette passion, pour moi, c'est le plus important. Continuer à être passionné par ce que je fais. Continuer de sélectionner des invités de manière hyper scrupuleusement. Et j'ai besoin, en fait, de ressentir cette passion à chaque interview. J'avais oublié, entre-temps, il y a eu un autre succès que je voulais quand même mentionner. C'était quand j'ai organisé mon deuxième talk show, donc c'était à Paris, et les places se sont vendues en 48 heures. Et là aussi, ça a été vraiment un gros succès que j'ai ressenti. C'était tellement agréable, pour une fois, d'avoir fait les choses correctement et que ça ait fonctionné, en fait, que ça n'a pas trop demandé d'efforts de vendre les places. Franchement, c'est génial. C'est si bon quand ça fonctionne comme ça. Et pour moi, c'est encore rare. J'ai besoin vraiment de mettre une énergie très, très forte pour vendre, hein, tout simplement. Ça demande de l'énergie, de la stratégie, etc. Et là, c'était tellement facile que c'était si bon que ouais, ça fait partie vraiment des gros succès. À savoir que le premier talk show que j'ai organisé, donc c'était à Mougins, pareil, c'était encore un truc parce que je voulais le faire, parce que je voulais absolument déjà tester un projet pilote, faire mon premier talk. Et je l'ai organisé à Mougins, c'est-à-dire que personne connaît Mougins, donc c'est pas hyper stratégique. Je l'ai organisé dans un lieu parce que j'avais eu un coup de cœur avec le lieu et avec la créatrice de ce lieu. Et j'ai mal fait les choses. J'avais pas pris conscience des coûts que ça représentait. Du coup, les tarifs étaient un petit peu élevés pour m'y retrouver. Donc cet événement n'était pas du tout rentable. Après, c'était génial, ça a été un succès, les gens ont adoré, ça a été une journée magnifique que je regrette pas, mais c'est pour vous montrer encore une fois que bah, des erreurs, j'en ai fait. Et là, j'en ai cité que quelques-unes, mais j'en ai fait tellement, mais vous n'imaginez pas. Mais je suis totalement OK avec ça. J'ai aucun problème avec ça. De toute façon, quand j'ai un truc en tête, je le fais. Même si je sais que c'est pas la meilleure manière de le faire, j'ai besoin de le faire. Et là, j'avais besoin de le faire. J'ai toujours rêvé d'organiser des événements avec les locomotives et d'organiser des talk shows surtout. Et il fallait que je le fasse. Je voulais tester, je voulais voir ce que ça donne, je voulais le faire. Et je le faisais pas pour l'argent, je le faisais pour le vibrer le truc, pour vivre ce truc-là, pour rassembler des femmes. Mais j'ai galéré à vendre mes places. Enfin bref, ça a pas été simple du tout. Mais ça s'est fait. Et j'étais super heureuse de l'avoir fait, c'était incroyable. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce premier événement que j'ai décidé de continuer ce type de format-là. Et pour parler d'un dernier succès qui m'a marqué dernièrement, ça a été le lancement de la promotion numéro 5 de la Locomotive Academy, donc là, tout récemment, début 2023. Et là, du coup, j'avais un objectif qui était beaucoup plus fort puisque je voulais faire une promotion de 30 femmes, donc 3 groupes, 3 classes. Et du coup, c'est super, enfin, ça s'est passé. Alors, j'ai mis énormément d'énergie dedans. Encore une fois, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. D'ailleurs, je le raconte dans un de mes vlogs, je sais pas si vous l'avez vu, bref, où j'explique qu'encore une fois, j'étais à l'arrache, enfin, trop à l'arrache, quoi, sur ma stratégie de lancement. J'ai tout fait en last minute. Je savais ce que je devais faire, pour le coup, cette fois. Mais j'ai tout mis en place en last minute. Et ça, c'est pas bon. Et c'est pour ça que si tu fais ça, ça te demandera, en fait, 2 fois plus d'énergie que si t'étais organisé, que t'anticipais les choses. Donc, bref, tout ça, je prends note. Et à chaque fois, j'essaie de m'améliorer un petit peu plus. Et je sais que cette année, il faut vraiment que je fasse un effort là-dessus, que je me discipline davantage dans mon organisation, dans mon business. Voilà, je sais que j'ai plein de choses sur lesquelles je dois m'améliorer et je vais vraiment essayer de faire au mieux. Voilà, donc je vous ai parlé de pas mal de choses. Ça a été, une expérience de vie formidable. Enfin, si vous avez peur de vous lancer, moi, je peux que vous dire que vous verrez, ce sera extraordinaire. Et encore une fois, malgré les erreurs que vous allez faire et les échecs que vous allez connaître, c'est pas grave, quoi. Ça fait partie du truc et vibrez à fond tout ce que vous allez vivre. Et vous allez voir que jamais vous ne vous sentirez aussi vivante que pendant une aventure entrepreneuriale. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, c'est une aventure de malade, vraiment. On me demande aussi beaucoup, et je voulais faire un petit aparté aussi là-dessus, comment tu fais, Sandra, pour gérer ton business et ta vie de maman? Donc déjà, je voulais dire, et c'est important de le dire, que j'ai un homme qui est extraordinaire. Il n'écoutera jamais cet épisode, mais je lui dirai que j'ai dit qu'il était extraordinaire, comme ça il sera content. Mais vraiment, enfin, il est d'un soutien hors norme, et je pense que quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale et qu'on est en couple, c'est vraiment important d'avoir un soutien de son partenaire et de beaucoup communiquer, parce que vivre avec un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est pas simple. Parfois, on se comporte un petit peu comme le président de la République, parce que les premières années, c'est là où on met tout en place, c'est là où on pose les bases, c'est là où on construit tout, en fait. C'est là où tout se joue, puisque c'est les premières années qui comptent. Et si tu te débrouilles bien les premières années, c'est ça qui fait que ton business va ensuite se développer, etc. Donc c'est clairement des moments importants et on est un petit peu obsédé par notre business, donc on boit, on mange, on dort en pensant et en parlant de notre business, et c'est vrai que c'est un peu agaçant parfois pour le partenaire. Dans mon cas, il est aussi un peu entrepreneur, donc ça va, mais je sais que c'est pas toujours facile. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'avoir un partenaire qui soit un allié et de faire attention à comment on se comporte aussi en tant qu'entrepreneur, de pas oublier que y a la vraie vie autour, enfin pas que c'est pas la vraie vie votre business, mais il y a la vraie vie, il y a votre conjoint, il y a les moments hors business, il y a vos enfants, il y a l'entourage, il y a plein d'autres choses. Donc c'est avoir la capacité de déconnecter. Je sais que c'est pas toujours simple, mais il faut le faire, et en fait on remarque bien que quand on déconnecte, ça ne change absolument rien, votre business ne s'écroule pas en une journée ni en un week-end, et que c'est nécessaire en fait pour préserver notre énergie et notre vie personnelle. Et pour parler de ma vie de maman, je pense que c'est une chance, moi je le vois comme ça, d'être entrepreneuse et d'être maman. Parce qu'en fait, grâce au fait que je sois maman, ça me permet de déconnecter naturellement, parce que j'ai envie de passer du temps avec mon fils, de m'occuper de lui, de faire partie de son éducation tout simplement, et de passer des temps de qualité avec lui. Et en fait, tout naturellement, ça fait que tu prends des temps off, parce que ce sont des temps qui sont obligatoires, entre guillemets, que t'as un enfant et que c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours vu ça comme une chance. J'ai toujours vu ça comme une chance pour un entrepreneur, parce que ça nous permet de préserver notre équilibre, de préserver notre énergie, de préserver ces moments dans la vraie vie et ne pas être qu'absorbé par ta casquette de chef d'entreprise. Surtout quand t'as un business qui monte, qui peut prendre beaucoup de succès, tu peux te retrouver très vite sous les feux des projecteurs. ça te permet de garder la tête sur les épaules et de garder aussi en tête quelle est la priorité des choses. Ben, moi, clairement, la priorité dans ma vie, c'est en premier ma vie de famille, clairement, ma vie de couple, mon fils et mon chéri, c'est clairement mes priorités fois 12 000, quoi, fois 1 million. Donc, je pense que c'est une chance d'être maman et d'être entrepreneuse. Voilà, moi, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Donc aujourd'hui, comme je le disais, j'ai vraiment à cœur de partager davantage de choses sur mon expérience entrepreneuriale, d'aider les femmes qui ont envie de devenir entrepreneuses, d'aider les mamans qui sont aussi entrepreneuses. Enfin, j'ai envie de vous aider à développer vos projets, j'ai envie de partager encore plus les galères que je rencontre, les succès, comment on fait pour éviter telle ou telle galère, pour gagner du temps, pour monter en compétences, pour développer son biz, pour dépasser un certain chiffre d'affaires. Enfin voilà, je pense que j'ai plein de choses à apporter et je suis passée par plein de choses en même temps. Burnout, devenir maman, quitter son CDI, déménager à l'autre bout de la France, quitter son CDI de nouveau pour devenir 100% entrepreneuse. Je pense vraiment que j'ai plein de choses à partager et que j'ai pas mal de recul maintenant pour partager des choses qui ont vraiment de la valeur. Donc voilà ma réflexion en ce moment que je voulais partager aussi avec vous. Et pour terminer, je vous ai promis du coup de vous révéler quelque chose par rapport aux 3 ans des locomotives. Donc bien évidemment que nous allons célébrer ces 3 ans comme il se doit. Et donc je vous divulgue tout de suite cette petite annonce. Donc on va fêter les 3 ans des locomotives à Paris fin juin. Et vous serez très vite informés puisqu'on va prochainement, alors pas tout de suite, mais prochainement, on va communiquer dessus et comme d'habitude, les places seront limitées. Donc, soyez bien dans les starting blocks si vous avez envie de faire partie de cet événement qui va être vraiment canon et qui marquera vraiment un tournant, je pense, dans les locomotives. Pour moi aussi, ça marquera un tournant en tant que moi, en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, en tant que créatrice de ce projet. Ça marquera un tournant et ça va être un événement qui sera génial. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous, si nous avons des hommes qui écoutent, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de sourires, beaucoup d'ondes d'énergie positive. Je vous souhaite que des belles choses en tout cas. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me faire un mail ou à m'écrire un message sur Instagram. Vous le savez, je suis très accessible et je le resterai toujours. Donc ça me ferait hyper plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus? Quelles sont les remarques que vous avez à me faire? Enfin, vraiment, n'hésitez pas. Ça me ferait super plaisir et c'est toujours très très constructif d'avoir des retours de votre part. Donc, je vous dis à très vite et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.